Alors, le texte du matin sera appuyé sur l'analyse des conditions de liberté, essentiellement d'après le
livre du Rambam, de Maïmonide, sur les chemins d'Apatine, ou avec des compléments que je prendrai dans les études du Maharal, en particulier dans le livre de Hachem, et dans l'étude autre là, suivant les questions qui se poseront. Et je vous dirai d'abord, en quelques phrases, le sujet général, qui sera introduit plus en détail dans la conférence générale de ce soir, c'est que il y a dans la tradition d'étude au sujet de cette notion deux perspectives qui se recoupent toujours. La première, c'est d'étudier les conditions et la possibilité de la liberté pour la créature. Et parmi toutes les créatures, une d'entre elles est censée, d'après la cohérence de la Torah, être doué de liberté. Alors, quelles sont les conditions de cette possibilité de l'être libre, étant donné le statut déterminé par les lois de la nature, de tout ce que nous nommons dans le vocabulaire biblique, la création et donc les créatures, et en particulier le cas de l'homme. Nous verrons en détail ce premier point, surtout ce soir déjà. Mais, c'est simplement un point. Au sujet des fonctions de la personne, Bidiat, Ahelek, Asherboy, Matseou, et la connaissance de celle des fonctions où on trouvera Amidot, Atobo, Varao, les qualités bonnes et mauvaises. En français, le terme de qualité a tendance à prendre le sens de qualité bonne a priori. Le terme de Mida en hébreu peut être soit Mida Tova, soit Mida Rara, soit une. Comportement par rapport à l'ordre des vertus, positif ou négatif. Da, sache, chez Aravot, vers Mitzvot, à Toriot, que les interdictions, ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire les transgressions d'un commandement d'interdiction, ça c'est l'Aravot, et les Mitzvot, et les commandements d'action, et les obligations de la Torah, Omnam, cependant, Imatsu, Bishne, Halakim, Mefilka, Nefesh. Il se trouve que dans deux des parties de la personne, je traduis littéralement le mot de halakim, que dans deux des fonctions du nefesh. Je vous les récapitule. Kohazam, les fonctions nutritives, biologiques. Kohamargish, la sensibilité. Kohamodame, l'imagination. Kohamitorel, la volonté. Et Kohasichli, la capacité à l'intelligence et de parole. Alors, d'emblée, Maïmonide va nous restreindre le champ de la responsabilité morale au comportement où le nefesh est vraiment libre, c'est-à-dire deux des fonctions parmi les cinq. Il y a déjà une première remarque très importante, si c'est nécessaire, nous la reprendrons pour l'analyser plus profondément, même ne s'en valait de soi. Il y a beaucoup de comportements de ce que l'on appelle la personne humaine qui ne sont pas susceptibles de jugement de moralité, donc de culpabilisation, éventuellement, parce que c'est un des soucis que j'ai diagnostiqués dans les premières analyses, sinon lorsqu'ils sont auxiliaires de comportements libres. Alors, ils sont aussi concernés par le jugement moral, mais en eux-mêmes, ils ne sont pas susceptibles du jugement de moralité. Il y a là ce que nous appelons un chidouche, c'est-à-dire un enseignement très particulier de la tradition de la Torah. C'est-à-dire, l'homme est libre et donc candidat au jugement, si j'ose dire, mais pas dans tous ses comportements. C'est un sujet qui est peut-être assez délicat à exprimer en français contemporain, mais je vais essayer de prendre un exemple. Eh bien, lorsque le tube digestif ne fonctionne pas comme il devrait, eh bien, il y a maladie, il n'y a pas faute. C'est-à-dire, a priori, on pourrait considérer que l'homme n'est pas responsable d'un mal à l'estomac. En tant que mal à l'estomac, en fait, c'est un peu vulgaire ce que j'ai pris comme exemple. Maintenant, si c'est la conséquence d'un comportement qui, lui, était un comportement moral et qui a eu pour conséquence un désordre organique, c'est rattaché, annexé, mais ce n'est pas escalité en soi que cela est jugé. On ne jugera pas une intelligence sur sa capacité de connaissance effective. On la jugera sur l'utilisation de ses connaissances, au niveau où chacun se trouve, s'il ment ou s'il ne ment pas. Mais déceler une erreur de raisonnement n'est pas susceptible de jugement de moralité, c'est un jugement de santé ou de bonne santé ou de mauvaise santé de l'intelligence en fonction de la personne. Alors, commençons à nous habituer donc à cette mise au point que Maïmonide annonce dès le début de son enseignement sur le point de notre sujet. Il y a des comportements qui sont de l'ordre du corps organique, donc des phénomènes de nature, et qui ne sont pas escalités sous le regard du jugement moral. Il y a déjà un pan énorme de la conduite humaine qui est déculpabilisée apparemment. C'est bien clair. Encore une fois, sauf dans le cas où c'est rattachable, annexable, comme conséquence, parfois comme cause du comportement futur, à des comportements qui, eux, à l'origine, étaient de l'ordre du comportement lui-même. Est-ce que c'est bien clair? Bien. Alors, je continue. Mais voici quelles sont les fonctions considérées. C'est Ferika Margish, c'est la fonction de sensibilité, la Ferika Mitrover est la fonction de volonté, l'Evad, uniquement. Ubishne et Lua Halakim, et c'est dans ces deux fonctions que se trouveront Iyu, Kol Averot, Vermizot, les interdictions et les commandements. Donc, c'est à Torah ne s'adresse pour interdire ou pour commander qu'au niveau du comportement où l'homme est libre. C'est un grand principe de la législation selon Maïmonide, la législation traditionnelle selon Maïmonide. Partout où il y a acte naturel, la Torah ne légifère pas, parce que l'acte naturel n'est pas libre. Le comportement naturel, je vous donne un exemple tout de suite qui est important. Vous ne trouverez pas dans la Torah, sinon de façon dérivée et allusive, et dont les rabbins se servent de ces allusions pour mettre en évidence des évidences que l'on n'aurait pas démontrées, mais la nature humaine étant ce qu'elle est, il y a parfois nécessité de montrer des évidences. Il n'y a pas de commandement dans la Torah d'avoir à manger pour vivre. Mais il y a un commandement comment manger, pour que ce soit kasher. Parce que d'avoir à manger pour vivre, c'est un comportement naturel, donc l'homme n'est pas libre à ce niveau-là. La Torah ne légifère, encore une fois, que lorsque l'homme peut faire ou ne pas faire ce que la Torah demande. La Torah ne légifère qu'au niveau où l'homme est véritablement libre. Et donc, il ne faut pas s'attendre à trouver des obligations, des interdictions au niveau de comportements qui sont des comportements de l'ordre de nature. Donc, on ne trouvera pas une mitzvah, il faut se marier. Parce que l'homme ne peut pas vivre seul, comme le dit la Torah. Alors, étant donné que la société est très sophistiquée, il va falloir démontrer à travers des allusions que la Torah implique qu'un homme normal se marie. Mais on trouve un commandement comment se marier pour le mariage, pour que le mariage soit caché. C'est-à-dire quelles sont les unions interdites, quelles sont les unions, et comment l'union est légitime. Est-ce que c'est clair l'exemple que il y a des cas particuliers de solitude naturelle, je cherche mes mots parce que c'est un sujet un peu délicat, mais vous comprenez ce que je veux dire, mais ce sont des cas particuliers, ce sont des cas marginaux. La Torah considère que l'accouplement est une donnée de nature, le fait de ne pas être en solitude. Et par conséquent, elle n'a pas à l'imposer, ça va de soi, semble-t-il. Elle ne parle que pour ceux qui sont naturellement en bonne santé, si j'ose dire. Mais elle va enseigner et légiférer, régir la forme du comportement naturel pour qu'il soit authentique par rapport à la moralité. Est-ce que c'est suffisamment clair? Ça se rattache un peu à l'analyse de tout à l'heure. Et prendre sur soi un vœu supplémentaire, c'est premièrement contre nature. Et c'est pourquoi c'est considéré comme chose merveilleuse et héroïque, aventureuse, comme je dis tout à l'heure. Ça signifie donc une connaissance très profonde de la nature humaine telle qu'elle est sortie du même du créateur, et cela veut dire de la nature humaine authentique, une sagesse préalable, au fait d'envisager ce que la législation de la loi à proprement parler, comme telle, va nous enseigner quant à la forme du comportement. Mais l'élan du comportement naturel, lui, fait partie d'un préalable à la connaissance de la Torah, que l'on appelle le derech eretz, comment se conduire dans la vie terrestre en tant que créature authentique du monde dans lequel on est situé. À ce niveau-là, la Torah ne légifère pas, il n'y a pas de liberté. Mais elle diagnostique, encore une fois, la forme de telle sorte que le comportement soit matim, homogène, aux exigences des valeurs, des valeurs morales. Voilà quelques exemples parmi d'autres, comme on dit souvent, mais on pourrait les et multiplier. Par exemple, vous ne trouverez pas de commandement pour un juif d'aller habiter avec Israël. Parce que pour Maïmonide, c'est naturel. Je reviens au sujet. Okay. Je continue. Omnam, Achele Kazan, vous êtes déjà à la quatrième ligne. Achele Kazan, Achele Kamdame. Alors, en ce qui concerne la fonction nutritive, la fonction imaginatrice, en mitzvah bo velo avera. La Torah ne légifère pas. Il n'y a ni interdiction, ni commandement, recommandation, sous forme de commandement, à ce niveau-là. Sauf lorsque, encore une fois, c'est rattaché à un comportement. Je vous donne un exemple. Nous allons faire un peu de morale rabbinique pratique. Il y a des images qui est la notion de responsabilité morale. C'est pourquoi je préférais ou je vous proposais de garder dans notre étude le terme de la personne humaine en tant que sujet de la moralité pour traduire cette expression hébraïque de Nefesh que nous avons dans les traductions de Shmona Pratim du Rambam et non pas l'âme. D'ailleurs, tout ceci est important. L'importance de cette analyse se révélera dans les études de détail que nous aurons à avoir. Maintenant, en ce qui concerne la notion de liberté, d'après l'introduction assez brève que nous avons déjà eue tout à l'heure, mais nous y reviendrons, il va s'agir de deux termes radicalement différents en hébreu, suivant que nous désignons le problème de la liberté en relation avec le problème moral, et il s'agit du libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de choix, la possibilité de liberté de choix entre ce qui est connu comme bien et ce qui est connu comme mal. Ceci, c'est le libre arbitre, et cela se dit en hébreu, la béchira, la possibilité de choix. Alors que la notion de libération de la condition des créatures à tous les niveaux, et au niveau qui importe pour notre sujet, de l'aliénation dans une société humaine, avec comme modèle de référence événementiel la sortie d'Égypte, libération de l'esclavage d'Égypte, qui est encore une fois l'événement fondateur de la foi d'Israël historique, comme nous allons le voir, cela se dit chérout. Et il y a une notion beaucoup plus métaphysique dans ce terme de chérout qui, à la limite, indiquera libération de la condition d'aliénation propre à la créature. Et nous étudierons en particulier, donc, je le répète, cette aliénation au fait social qui sera étudié en relation avec la sortie de Jésus. Ce sont donc apparemment deux sujets distincts, mais dans la préoccupation traditionnelle de la pensée juive, ils sont toujours reliés. Donc, le problème de la béchira, libre arbitre, et le problème de la libération, beaucoup plus métaphysique de portée, qui et c'est là que nous retrouvons le fondement plus historique de la foi juive, et qui est chérout. Alors, j'ai bien en tête, et vous connaissez les implications politiques contemporaines que ces termes pourraient suggérer, mais ils font partie du sujet. Vous avez entendu parler, je suppose, des appellations des mouvements de libération nationale, il y en a un aussi en hébreu, mais je referme la parenthèse. Eh bien, le premier enseignement que nous avons dans le premier chapitre de Shmona Pratim, c'est le fait que Maïmonide insiste que le nefesh pour l'espèce humaine, contrairement à certaines doctrines que nous trouvons chez les philosophes anciens, en particulier chez les Grecs, est un. C'est-à-dire qu'il y a une unité de la personne. Je vous renvoie donc à la lecture du premier chapitre de ces huit chapitres, brièvement, comme préface à notre sujet. Il y a un souci particulier de Maïmonide à insister sur ce fait, que le nefesh de l'homme est un. Et alors, dans l'ancien vocabulaire que nous n'allons pas retenir, l'âme humaine est une, mais je dirais plutôt le psychisme humain est considéré comme un. Il y a différentes forces, différentes fonctions, nous dirions aujourd'hui, différentes facultés, disait-on au Moyen-Âge, mais ce sont des parties, des forces, des fonctions d'un nefesh un. Et encore une fois, c'était contraire, Maïmonide s'oppose à une conception selon laquelle il y aurait différentes âmes dans la personne humaine. Je vous cite très, très sobrement ces doctrines qu'il critique, mais elles sont très familières. L'âme végétative, l'âme sensible, l'âme intelligente, etc. Pourquoi Raïmonide insiste sur ce fait que, selon l'enseignement de la Torah, le néfèche de l'homme est un et qu'il n'y a pas différent néfèchot. Ce terme est au féminin en hébreu. Parce que s'il y avait différents néfèchot, d'une part, on ne comprendrait pas ce que l'on appelle en termes contemporains la synthèse de la personnalité, elle serait a priori impossible. C'est une notion qui ferait partie d'une mentalité polythéiste, au minimum dualiste, mais en tout cas certainement la lune ou l'atmosphère polythéiste. Il y aurait différents absolus qui collaboreraient au fait de faire apparaître, je n'emploie pas le terme de création, cela impliquerait déjà des options préalables, faire apparaître la présence de telle ou telle manière d'être vivant, en particulier l'homme. Et surtout, il n'y aurait plus de fondement possible à la notion de responsabilité morale. Je vais très, très brièvement raconter comment le Midrash présente cette notion. C'est le Midrash qui est connu sous le terme de l'aveugle et le paralytique. C'est-à-dire un roi qui possédait un jardin avait besoin d'un chômeur, un gardien du jardin. Vous devinez déjà les implications bibliques que le jardin où l'homme a été situé. Et alors, pour être assuré que son jardin serait bien gardé, alors, le raisonnement appliqué par le Midrash est de dire si celui qui peut agir est libre d'agir, il risquerait d'avoir des dégradations du jardin, des handicaps écologiques, des fautes. On va prendre donc un aveugle qui ne sait pas où il va, mais on va le mettre sur un paralytique qui, lui, ne peut pas aller. Dans la signification de ce Midrash, il s'agit bien évidemment de l'âme et du corps. C'est-à-dire le corps peut agir mais est aveugle, l'âme peut voir mais ne peut pas agir, alors l'aveugle sera, comment dire, installé sur le paralytique et voilà donc la physionomie de l'homme en tant que gardien du jardin. Et puis voilà que l'histoire se passe, et au bout de l'histoire, il y a un bilan, on doit juger l'état du jardin. L'état du jardin est assez dégradé, problème d'écologie contemporaine. Alors, au moment du jugement, il va y avoir plaidoyer. L'aveugle dira qu'il était incapable de voir, donc irresponsable, et le paralytique dira qu'il était incapable de marcher, donc irresponsable. Alors, au moment du jugement, il y aura de nouveau résurrection de la personne, l'aveugle sera réinstallé sur le paralytique. Bon, vous comprenez un peu quel est le thème du Midrash. S'il y avait deux principes, au minimum plusieurs séparés, dans les motivations de la conduite, du comportement de l'homme, aucun jugement moral ne serait possible. Le corps pourrait plaider en disant « je suis responsable en tant que corps », l'âme pourrait plaider en disant « je suis responsable en tant qu'âme ». C'est la personne qui est jugée. Donc on comprend, j'espère que l'explication est suffisamment claire, on comprend que Maïmonide insiste sur l'unité du Nefesh comme fondement de la possibilité de la notion de responsabilité morale et donc du jugement moral. C'est suffisamment clair, nous pouvons déjà passer donc à l'exploration du deuxième chapitre. Il y en a, je crois, bien évidemment, une originalité de la tradition de pensée juive. Quel que soit le sujet qui est abordé, le souci principal est de le relier au problème moral. Et dans notre cas, c'est le problème de la responsabilité morale. Il y a deux conditions indispensables pour fonder la notion de la responsabilité morale. C'est d'une part la connaissance de la norme par laquelle cette responsabilité a à être jugée, confrontée. Par postulat, nous allons admettre que l'accès à cette connaissance est possible. N'est pas l'aspect de ce sujet que nous avons traité. Et le deuxième problème est donc celui, la deuxième condition est celle de la responsabilité. Premièrement, connaître la loi. Si on ne connaît pas la loi, il n'y a pas de base au jugement ni à la responsabilité. Deuxièmement, que le sujet puisse être responsable, c'est-à-dire libre. Alors, par postulat, encore une fois, nous admettrons que l'accès à la connaissance de la loi est possible. C'est un sujet pour lui-même. Enfin, nous allons admettre qu'il est déjà résolu. Et qu'il est possible à l'échelle universelle, sinon ce problème n'aurait pas de fondement réel. Et d'autre part, et c'est le souci de Maïmonide dans ce texte, dans ce livre, d'établir les conditions de possibilité de la liberté du sujet de la moralité. Vous comprenez pourquoi ? La question qui va intéresser Maïmonide au premier chef, c'est qu'est-ce qui, dans la personne humaine, peut être déclaré réellement libre ? De telle sorte, encore une fois, d'y trouver le fondement de la notion de responsabilité. Alors nous avons une analyse extrêmement importante des différentes fonctions de ce néfuge 1 que nous avons encore dans le premier chapitre. Et selon Maïmonide, il y a 5 fonctions que je vais vous énumérer assez rapidement, puisque ce n'est pas l'objet central de notre analyse. Il y a d'abord la fonction qu'on a l'habitude d'appeler végétative. Je l'appellerai, si vous voulez, biologique, corporelle. Le néfesh anime le corps et en fait un être doué de comportement autonome et au niveau biologique. Cette fonction s'appelle la fonction nutritive dans le vocabulaire qu'emploie le koach hazav. Il y rattache d'ailleurs la fonction sexuelle, un sujet pour lui-même. Pourquoi ? Et effectivement, il en est ainsi dans le profil biologique du corps humain. La fonction nutritive et la fonction sexuelle sont toujours reliées au niveau de ce premier degré des fonctions du nefesh. Très brièvement, l'une assure la perpétuation de l'individu, c'est la fonction nutritive, et l'autre assure la perpétuation de l'espèce. Et nous avons beaucoup d'études talmudiques concernant la halakha elle-même, tel mitzvah en particulier concernant le mariage, qui relie toujours la conduite de nourriture et la sexualité. C'est un sujet pour lui. Donc, première fonction, le koach hazam. Deuxième fonction, ce qu'il appelle le chelek hamargish, le koach hamargish, la sensibilité. Au-delà, plus haut du comportement proprement végétatif, biologique, qui donne encore une fois sa possibilité à l'être vivant comme corps de fonctionner, il y a déjà l'apparition de la présence à soi au niveau de la sensibilité, de la présence à soi en relation avec le monde extérieur. Alors toutes les fonctions de la sensibilité, affectivité intérieure subjective ou sensibilité de représentation, déjà s'amorce un peu la capacité intellectuelle de ce néfesh humain, mais nous sommes encore au niveau de la sensation et de ce qu'elle entraîne du point de vue de la capacité de connaissance. Plus haut encore, il y a une troisième fonction qui est la capacité imaginative. Le koach, le chelek hamadame, en hébreu. Cette fonction imaginative a elle-même plusieurs dimensions, j'en citerai deux principales. La capacité de reproduction des images, et qui est donc la fonction de mémoire, et d'autre part, la capacité de combiner les images, qui est l'imagination combinatrice. Mais il y a là quelque chose qui va donner une spécificité de plus en plus affinée, de plus en plus grande au néfesh de l'homme par rapport au néfesh d'autres espèces vivantes. Alors, je récapitule ces trois niveaux. Koach hazam, koach hamargish, koach hamadame. La fonction nutritive, avec tout ce qu'elle implique, la fonction de sensibilité avec tout ce qu'elle implique, et la fonction d'imagination avec tout ce qu'elle implique. Et puis nous abordons un niveau extrêmement important pour Maïmonide, et qui est le koach mit-orer, c'est-à-dire ce que nous appelons la volonté. Le terme équivalent dans d'autres vocabulaires, c'est le ratzon. Le fait que le nefesh est doué d'autonomie de volonté. Et je vous indique tout de suite que c'est précisément à ce niveau du koach mit-orer que Maïmonide va situer le problème de la liberté. Pour le dire en une formule, c'est pour Maïmonide la volonté en l'homme qui est libre. Lorsque nous disons que l'homme est libre, nous désignons ce niveau de son effet, de sa personne, qui s'appelle le koach mit-orer dans son vocabulaire et que nous appelons en général le ratzon, c'est-à-dire la volonté. Et puis il y a une cinquième force, c'est la capacité de l'intelligence auquel il faut rattacher la capacité de parole. C'est le koach ha-sikhli, la vie intellectuelle. Voilà donc les cinq niveaux de la personne selon l'analyse de Maïmonide. Je pense que ça vous rappellerait de capituler une fois en hébreu. Koar Hazan, Koar Amargish, Koar Hamedame, Koar Hamed Ored et Koar Hasikri. Je signale pour ceux qui sont déjà familiers à d'autres dimensions de cette étude que bien que le chiffre de cinq fonctions soit très parallèle à l'analyse que donnent les kabbalistes de la même notion, l'intitulé de ces fonctions semble ne pas ressembler. Mais en réalité, une étude un peu plus profonde montrerait une correspondance indéniable. Pour le vocabulaire de la Kabbalah, il y a aussi dans la Neshama cinq niveaux, que je vous rappelle très brièvement, parce qu'on a déjà étudié ces analyses. C'est le Nefesh, le Ruach, la Neshama, Chaya et Yechida. C'est un tout autre vocabulaire, une toute autre connotation, et nous aurons peut-être l'occasion, sans doute à travers vos questions déjà aujourd'hui, de poser un problème de raccordement de ces deux analyses. Mais a priori, nous n'avons pas à nous en préoccuper, puisque nous étudions le problème de la liberté, de la possibilité de liberté, du libre choix, du libre arbitre pour la personne humaine dans le vocabulaire de Maïmonide, et je vous signale déjà, on le voir en détail dans le texte que nous allons étudier, qu'il le situe au niveau du Koach Amikrover, c'est-à-dire du Ratzon. Le problème important, c'est que pour les kabbalistes, le Ratzon est beaucoup plus haut, plus intérieur à la personne humaine, alors qu'il semble en première apparence que pour Maïmonide, c'est la vie intellectuelle qui est beaucoup plus haut. C'est-à-dire nous aurions, encore une fois, vie végétative ou vie organique, vie de sensibilité, vie imaginative, vie volontaire et plus haut la vie intellectuelle dans l'analyse de Maïmonide. Alors que chez les kabbalistes, le ratzon est beaucoup plus haut que la vie intellectuelle. Il est le degré suprême. La vie intellectuelle étant que le troisième degré. Entre la vie intellectuelle et la vie de volonté dans l'analyse kabbaliste, il y a la vie des valeurs vivantes de la moralité vécue qui, au niveau de l'intitulé des noms de la Neshama, s'appelle Chaya. Donc, ce sont vraiment pas des vocabulaires qu'on peut raccorder à première lecture. Cependant, nous avons un problème posé par Maïmonide lui-même, dans le texte que nous avons étudié, va nous permettre d'entrevoir une correspondance beaucoup plus directe. Par exemple, la préface indispensable. Première question, qu'est-ce qui, dans la personne humaine, est libre? D'après Maïmonide, c'est sa volonté. Alors, avant d'aborder l'étude du texte, se pose à nous une question que je voudrais analyser. Nous allons découvrir dans ce texte une sorte de schématisation du problème qui pose toute une série de réflexions indispensables. Il semble que la nature humaine dont Maïmonide parle ne soit idéale dans son texte, ne correspond pas forcément avec celle dont nous avons expérience. Sur le principe suivant, pour lui, la capacité de liberté, non, c'est le premier point de notre problème, de la Bechira, du libre choix, du libre arbitre, entre les valeurs morales et leur opposé, c'est-à-dire entre le bien et le mal, soit totale, aille de soi comme quelque chose de simple à comprendre, un a priori qui risque de gêner l'étudiant ou le lecteur. Aujourd'hui, nous savons à quel point la conduite humaine est conditionnée. Quelle que soit la place que l'on accorde à la volonté en tant que volonté, pas seulement la psychologie moderne, mais la culture moderne en général, a déjà depuis longtemps découvert, et c'est pour elle une certitude, que pratiquement tous les comportements, même apparemment les plus libres, des actes les plus gratuits en apparence, sont en réalité l'objet d'un conditionnement extrêmement complexe. Alors, je crois qu'il faut noter cela, avant même l'étude de détails. C'est que Maïmonide était médecin, non seulement rabbin, et un des plus grands de son temps et à travers les temps, mais il était médecin et un des plus grands de son temps et à travers son temps. On ne peut pas imputer à Maïmonide une inadvertance de faire comme si, dans un texte de philosophie, on ne tiendrait pas compte de la réalité concrète de la nature humaine comme elle est, c'est-à-dire conditionnée. Conditionnement psychologique, conditionnement psychosociologique, conditionnement social, conditionnement historique, les conditionnements que nous découvrons, chaque fois que nous essayons d'analyser les motivations ou les mobiles du comportement humain, sont considérables. Il ne semble pas y avoir de traces de cette préoccupation chez Magnon. Alors, si la question est suffisamment clairement exposée, je voudrais deux indications à ce sujet. Premièrement, tous les premiers chapitres de Deshmona Pratim sont consacrés par Magnoni à ce que nous appellerions dans le vocabulaire moderne les déviations, les dévoiements de la personne humaine, c'est-à-dire les conduites extrêmes dans le langage de Magnoni. Tout ce qui porte à exagérer une tendance et dans le comportement que j'appellerais donc moral de l'homme, considéré par Magnoni comme une déviation, c'est-à-dire une maladie à la limite. C'est ce qu'il appelle les maladies du nefesh. Et toutes les maladies du nefesh, pour lui, trouvent leur cause ou leur explication simultanément dans l'exagération d'une des tendances dont le faisceau forme le nefesh, c'est-à-dire la personne humaine. Donc il est très averti du problème que nous avons posé.